Si vous voulez, sans faire de hiérarchie parmi les intervenants, je vais procéder de ma gauche vers ma droite. Je vais commencer donc par Pierre Lagrange, sociologue des sciences, chercheur associé au laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture, spécialiste des parasciences, tu m'arrêtes si je me trompe, et notamment du phénomène OVNI, et c'est pour ça que tu es le bienvenu. Bon, j'ai cru comprendre, donc, tu privilégies en la matière une sorte de sociologie de scepticisme sur laquelle nous reviendrons. Il a publié La rumeur de Roswell en 1996, La guerre des mondes a-t-elle eu lieu en 2005, et en 2007, OVNI, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ok. J'ai la joie de vous présenter à ma gauche Richard Bessière. Bon, Richard Bessière, écrivain, bien connu, conférencier, je crois maintenant plutôt, qui inaugure en 1952 la collection mythique Anticipation aux éditions Fleuve Noir et qui a publié, je crois, une centaine de romans, peut-être plus. Oui, de 51-52 à 1985, on connaît son cycle des conquérants de l'univers. Ses œuvres, je crois pouvoir le dire, ont profondément marqué la science-fiction contemporaine, avec des œuvres comme un futur pour Monsieur Smith, Les Sept Anneaux de Réa, Concerto pour Inconnus, Les Mages de Dereb, Les Jardins de l'Apocalypse, etc. Grand prix de la science-fiction française pour Les Seigneurs de la Nuit. Et je crois que vous êtes affirmé pratiquement dans tous les genres, hein, space opéra, futurologie, voyage dans le temps, et même le fantastique, l'ésotérisme.
Et même avec la machine.
Très bien. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Toujours sur ma droite, Stephen Baxter, qui est donc écrivain de science-fiction, écrivain britannique, de formation scientifique, qui enseigne les mathématiques, la physique, l'informatique, et qui s'est porté, je crois intéressant de le rappeler, candidat en 91 pour participer à une mission dans la station spatiale Mir, mais qui a malheureusement été éliminé à l'époque, qui se consacre à l'écriture à plein temps depuis 1995, qui a écrit plus d'une trentaine de romans et je crois à peu près 160 nouvelles. Mais je crois que notre ami Stephen Baxter est plutôt spécialiste de hard science fiction, hein, une hard SF dont on a parlé tout à l'heure, basée sur des découvertes solidement attestées. Il s'intéresse à la conquête spatiale et à ses défis technologiques. Vous connaissez peut-être Titan, Voyage, Poussière de Lune. Et son cycle de l'Odyssée du Temps va être bientôt publié. Il a été, je crois, écrit avec Arthur Clarke. Toujours sur ma droite, Thierry Gendroc, qui est psychanalyste, psychiatre, tu m'arrêtes, qui n'est absolument pas psychiatre, et qui, que je connais depuis quelques années comme grand amateur de science-fiction, qui est intervenu plusieurs fois à des colloques à Cerisy, et qui a publié récemment aux éditions Rouge Profond « Tueur en série, les labyrinthes de la chair ». Récemment, à Cerisy, nous avons participé à une expérience intéressante, là encore sur les extraterrestres, et Thierry Gendroc est intervenu sur Whitley Strieber, dogmatisme ou science-fiction. C'est une question, évidemment, que nous pourrons poser. Alors, évidemment, le thème de cette table ronde est très, très riche. Comme nous sommes plusieurs autour de la table, je demanderai aux personnes, évidemment, d'être le plus concis possible et essayer de, comment dire, de cerner le sujet le plus directement possible. Tout commence, comme vous le savez, par la fiction, mais là où ça se complique, c'est que le problème extraterrestre, évidemment, engage d'autres enjeux, des témoignages, des enlèvements. Vous avez des gens comme Strieber qui se situent à la limite ou à la frontière de la science-fiction et de l'ufologie, comme on dit. Est-ce que l'ufologie est une science ou une pseudo-science? Est-ce qu'en fin de compte, le problème des aliens, hein, c'est un terme qui est passé, on pourra peut-être revenir sur les différents sens, les différentes déclinaisons du mot alien, Est-ce qu'en fin de compte, ce thème des aliens ne nous fait pas déborder la question d'une manière extralittéraire pour rentrer dans un registre plus délicat qui est celui, par exemple, de la croyance? Donc ce que je vous propose, c'est un tour de table pour commencer, voir d'une certaine façon comment chacun à sa façon, en tant que sociologue, en tant qu'écrivain, en tant que clinicien, donc a pu entrevoir le problème des extraterrestres et de leur caractère bienveillant ou malveillant. Mais si vous voulez, avant de revenir tout de suite sur ce caractère néfaste ou ce caractère positif, peut-être votre propre rapport, je dirais, avec la notion de qu'est-ce que c'est qu'un extraterrestre, comment peut-on percevoir en tant qu'écrivain, par exemple, M. Richard Bessières, comment peut-on percevoir l'extraterrestre en général?
Il y a plusieurs façons, en effet. Il y a l'écrivain qui peut exagérer, extrapoler sur le sujet. Et puis, il y a la considération que nous devons avoir, je pense, avec des êtres qui habitent une autre planète, mais qui n'ont pas notre formation, notre éducation, qui ont d'autres idées aussi. Et je crois que là, nous sommes dans une question un peu de racisme. Parce que nous nous fions beaucoup à notre savoir, à notre connaissance, à ce qu'on nous a appris, notre éducation chrétienne, oui. Maintenant, les extraterrestres n'ont forcément pas une éducation chrétienne. Donc, une éducation qui est différente de la nôtre et qui peuvent aussi nous faire voir l'humain à travers l'espace comme quelque chose qui est complètement différent de leur position propre. Alors, je crois que là, quand on considère, bon, en tant qu'écrivain, on peut toujours extrapoler, on peut toujours arranger les choses, les extraterrestres bons, les mauvais, bon, ça devient un petit peu le western de l'écriture. Oui, mais lorsque nous pensons sur une réalité qui est possible à envisager, on peut penser que les autres créatures qui vivent dans l'univers n'ont pas forcément nos idées, que nous devons à la fois les craindre et les respecter aussi. Mais on craint toujours celui qui nous dépasse, et qui a une technique ou une façon de concevoir les choses par rapport à nous. Et je crois que la crainte vient surtout de considérer les gens qui pourront un jour venir nous rendre visite, disons, appartenir à une catégorie bien supérieure. Bon, supérieure à l'intelligence. Je ne parle pas en bonté, parce que l'intelligence n'a rien à voir avec la bonté. Mais je pense que, oui, il y a une différence entre ceux qui sont capables de venir nous voir et nous qui ne sommes pas encore capables d'aller chez eux. Donc il y a une barrière. Il y a une barrière qui fait que nous devons aussi considérer ces gens avec une certaine crainte, je pense, sans toujours tomber dans l'épouvantail, non. Mais enfin, je pense que même par rapport à nous-mêmes, par rapport à des communautés que nous avons connues autrefois, qui n'avaient pas les moyens de connaissance, mais nous sommes comportés comment ? Nous sommes comportés comme des colonisateurs, comme des gens qui arrivaient dans ces communautés avec l'intelligence, les capacités, les moyens qu'ils ne les avaient pas. Donc je pense que avoir la capacité, les moyens, la technique par rapport à une autre société crée cette différence, crée cette confusion un petit peu. Et je crois que ces gens craignent l'arrivée d'extraterrestres, parce que, après tout, donc, des gens qui ont des supériorités sur nous peuvent aussi se comporter comme nous-mêmes, des rats, comme des rats dans un laboratoire. On nous étudie. Bon, on nous étudie pour savoir quelles sont nos réactions, comment nous réagissons à ceci, comment nous réagissons à cela. Oui, donc nous sommes étudiés automatiquement par des êtres qui nous sont supérieurs et qui n'ont pas les mêmes considérations que nous avons. Alors je pense, la crainte, oui, il peut y avoir de la crainte légitime, je pense, surtout lorsque nous nous sentons en infériorité, et comme je l'ai dit, des rats dans un laboratoire. Voilà, alors je ne dis pas que tous les extraterrestres sont mauvais, non, même pas. Mais enfin, il peut y avoir de bons extraterrestres, comme il peut y avoir de bons et de mauvais terriens. Alors je pense que c'est une considération que nous devons avoir, non seulement par le raisonnement, mais par l'expérience, si un jour elle se fait. Donc, si l'expérience un jour se fait, bon, là, nous sommes amenés à prendre nos dispositions, des raisons qui nous pousseront à aimer ces gens ou à les détester. Alors, comme je l'ai dit et je le répète, je crois qu'il faut toujours se méfier des gens qui en savent plus que nous, d'accord, qui ont la technique bien supérieure à nous et qui peuvent aussi en profiter. Et je crois qu'il y a une crainte à avoir si jamais la chose devait se passer.
Ok, merci beaucoup. J'ai envie de demander à M. Baxter, qui a en fin de compte une double casquette de scientifique et d'écrivain, si sa perception en fin de compte du phénomène ou, disons, extraterrestre est modulée, disons, par exemple, en tant qu'écrivain, par son scientific background, dans sa formation scientifique.
Well, I think first I should say again, I'm very sorry that I have no French. And so thank you for your patience and thank you for translating. You need a microphone, don't you? I do have a scientific background and I write hard SF, so with a scientific basis, and I think that has shaped my view of the alien question over the years.
Je suis un scientifique et j'écris ce qu'on appelle de la hard science fiction, de la SF à dominante scientifique, et effectivement cela a façonné le point de vue que j'ai sur l'extraterrestre.
And in fact, I've come to think that it's an extremely important question in terms of our own understanding of our place in the universe.
C'est en fait une question très importante dans le contexte de la compréhension que nous pouvons avoir notre propre place dans l'univers.
It seems inconceivable that we can be alone in the universe, but there have now been 50 years of modern scientific searches for the alien.
Il semble inconcevable que nous soyons seuls dans l'univers, et pourtant cela fait plus de 50 ans que des recherches scientifiques sont menées systématiquement pour trouver une vie extraterrestre.
We've had radio astronomy searches, of course, not just in America, which we're familiar with, but around the world, including France. There's a very large installation in near Orléans, which has been used for searching for signals from alien civilizations.
Il y a eu des recherches faites en radioastronomie, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, y compris en France, où il y a un centre à Orléans qui s'occupe spécifiquement de rechercher des signaux susceptibles d'avoir été émis par des extraterrestres.
There have also been searches for artifacts at particular places in the solar system, stable orbital positions.
On a aussi recherché des artefacts dans certains endroits bien précis du système solaire.
We've looked for stars enclosed in Dyson spheres, in shells, which block out the light.
On a cherché à voir si on ne pouvait pas observer des étoiles encloses dans des sphères de Dyson, c'est-à-dire des étoiles enfermées dans des objets artificiels.
Yes, you'd be able to see the heat from this thing, but not the light. We've also looked for the evidence of the large-scale modification of whole galaxies by advanced civilizations.
On a aussi cherché des traces visibles ou perceptibles de modifications à grande échelle, y compris à l'échelle de la galaxie, par des civilisations super avancées.
And there is always more searching to do. There are always other places to look. But in 50 years of searching now, we found absolutely nothing, not a sign of a few false alarms, but not a positive sign of alien intelligence at work out there.
Donc ça fait 50 ans qu'on se livre à toutes ces recherches, et en 50 ans, on n'a absolument rien trouvé, aucun signe vraiment irréfutable, aucune preuve irréfutable de l'existence d'une civilisation extraterrestre.
So my conclusion is, it may well be that the universe and alien intelligence, if it exists, is probably much stranger than we can imagine. But in any case, this growing negative result seems a real mystery to me, and one that I hope in the next century or so we will come a lot closer to understanding as we see the planets around other stars and so forth. But I think it does seem to me a central question in terms of our understanding of our place in the universe.
Donc c'est un peu déprimant. On peut se dire, si on veut rester optimiste, que s'il existe des extraterrestres, ils ont une mentalité tellement étrangère à la nôtre qu'on n'arrive même pas à identifier les traces de leur passage. Mais ça reste une question qui préoccupe Stephen Baxter. Il espère que dans le siècle à venir, on pourra pousser plus loin, notamment avec les capacités d'observation des exoplanètes qui se développent de façon très très nette.
Just one more point, which is why I wrote three whole novels about this question, my Manifold series, about this precise question of are we alone in the universe and what does it mean for us?
C'est pour ça qu'il a écrit des romans spécifiquement sur ce sujet. C'est la série Manifold. Il y a deux volumes parus. I did my homework. Donc Manifold Space et Manifold Time. Manifold Origin s'appelle Origine et Espace.
On sale in the bookshop.
Merci.
I don't need to translate.
Merci beaucoup. Thierry, je te donne tout de suite la parole, mais j'aurais envie de demander à Pierre Lagrange comment le phénomène, disons, est peut-être envisagé par rapport, disons, à la science-fiction générale, si on veut essayer d'être justement resté sceptique.
C'est-à-dire, en fait, je pense que le débat sur les extraterrestres, longtemps, ça a été une discussion qui était philosophique et littéraire. Ça a changé récemment, bon, je dirais à la fin du 19e siècle avec Wells, La guerre des mondes, qui a introduit l'idée pour la première fois de extraterrestres qui viennent chez nous, les martiens à l'époque, et qui a vraiment marqué cette discussion parce qu'il a introduit l'idée de relativisme culturel. C'est-à-dire que Wells, malgré lui, a inventé les monstres martiens, mais ceux qu'il décrit dans son roman, ce sont des extraterrestres tellement différents de nous qu'on ne peut pas leur appliquer notre morale. Et je crois qu'on ne peut pas penser le problème si on ne part pas de ce point de vue. Wells a vraiment posé le débat. Ce qui est tout à fait intéressant après Wells, c'est qu'au cours du XXe siècle, on est rentré dans une autre phase du débat, avec d'un côté les histoires de soucoupes volantes, et de l'autre côté le programme SETI dont parlait Stephen Baxter. C'est-à-dire qu'on a deux points de vue au sein de notre société, de personnes qui disent « le débat n'est plus simplement philosophique, il s'est incarné dans la réalité, il y a à avoir un débat sur quelles sont les preuves, acceptables ou pas, sur ce sujet. » Et donc depuis une soixantaine d'années, 50 ans pour SETI, on débat de l'existence d'extraterrestres, on s'engueule en gros entre croyants et sceptiques, et chacun se renvoie des étiquettes à la figure. Moi, ce qui me paraît tout à fait intéressant dans cette discussion, c'est que on a effectivement le programme SETI, depuis 50 ans, cherche tous azimuts, radio, des artefacts dans le système solaire et tout ce qui s'ensuit. Mais quand on regarde l'histoire des civilisations sur Terre, simplement sur Terre, alors que nous sommes tous des homo sapiens sapiens, que nous appartenons tous à la même espèce, la caractéristique, c'est qu'on ne se comprend pas. On a mis des décennies, des centaines d'années pour arriver à comprendre les autres cultures. On commence à peine à comprendre un peu nos cousins primates, les grands singes ou les babouins ou autres, qu'on étudie depuis des dizaines d'années. Donc, il me paraît assez clair que si on était confronté à une forme d'intelligence extraterrestre, elle est tellement différente de la nôtre, sur tous les plans physiques, historiques, culturels, est-ce que c'est simplement les mots de culture, de science ont un sens par rapport aux extraterrestres, qu'il faut s'attendre à être face à quelque chose d'incompréhensible. Et je pense que le problème a été posé à la fois en ufologie, l'étude des ovnis, et à la fois dans le cas du programme SETI, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, c'est-à-dire l'idée que s'il y a des civilisations ailleurs dans l'univers, statistiquement, il existe tellement de civilisations et certaines sont tellement plus anciennes que la nôtre. Nous, sur Terre, la vie sur Terre, c'est un peu plus de 4 milliards d'années. L'univers a plus de 15 milliards d'années. Donc, il y a largement la place pour que des milliards de civilisations soient apparues. Sur Terre, notre civilisation scientifique, elle a 400 ans. Les progrès scientifiques récents, c'est moins d'un siècle. Donc, on est vraiment un clin d'œil dans l'histoire de l'univers. Donc, s'il y a des civilisations ailleurs, elle représente quelque chose de tellement différent que c'est difficile à appréhender. Et la question qui se pose, c'est, et que pose Fermi, c'est que si les extraterrestres beaucoup plus évolués, entre guillemets, ailleurs, il est très probable qu'ils soient capables de faire ce qui nous est impossible à nous, c'est-à-dire de voyager dans l'univers, se déplacer. Mais du coup, ça pose un problème qui n'est pas simplement de les repérer. SETI, effectivement, a essayé de repérer, mais en fonction de critères qui sont humains. Et malheureusement, là, on se heurte sur un problème qui est quasiment de la métaphysique, qui est comment se représenter une forme d'intelligence aussi radicalement différente.
Merci beaucoup. Thierry, j'ai envie de te demander, à guise là encore d'introduction, comment, en fin de compte, tu perçois le phénomène extraterrestre en tant que grand lecteur et grand critique de science-fiction, et en même temps en tant que clinicien.
Bon, notamment par rapport, évidemment, à tout ce qu'on a appelé le mythe OVNI, le mythe de l'alien, tel qu'il est développé, notamment du côté américain, depuis une trentaine, quarantaine d'années.
Bon. Merci d'avoir posé la question, j'y répondrai tout à l'heure. La question de l'alien, ça renvoie au latin alienus, qui est l'étrangeté radicale. C'est-à-dire ce qui ne nous ressemble pas. Ce n'est pas seulement celui qui ne parle pas comme nous, mais celui qui a une autre forme que nous. Et depuis la nuit des temps, et en particulier depuis l'Empire romain, la figure de l'aliénus, c'est l'irreprésentable. Et ça renvoie à la question du réel. Alors évidemment, quand on est psy, on va nous dire, vous êtes dans les sciences humaines, c'est des sciences molles, ce n'est pas des sciences dures. Ben non, il n'y a pas de sciences molles et pas de sciences dures. Il y a des sciences rigoureuses et des sciences moins rigoureuses. Alors quand on est rigoureux dans son approche d'un objet, tel que les extraterrestres, les enlèvements d'extraterrestres et toute la mythologie qui nous infecte comme ça depuis une cinquantaine d'années, le clinicien s'interroge. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui délirent? Tous les gens qui nous racontent qu'ils ont été capturés... mis sur des tables, examinés, on les a pénétrés dans toutes les muqueuses, on leur a mis des puces comme s'ils étaient des animaux, et puis on les a relâchés comme ça dans la nature, et ils vivent depuis des événements qu'on appelle en psychiatrie des voyages pathologiques, des moments de fugue. Alors ce qui est intéressant, c'est que tous ces moments-là, on les connaît depuis des années. On les connaît depuis l'Antiquité. Dans le temps, on appelait ces gens-là des gens bénis des dieux. En fait, c'était des épileptiques. Aujourd'hui, on dirait que c'est des psychotiques. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que maintenant, il y a énormément de gens qui se reconnaissent dans des discours. On est face à des discours. Le discours de l'extraterrestre aujourd'hui est quelque chose qui permet à un certain nombre de personnes, en particulier aux États-Unis, et je précise États-Unis et non pas Amérique, de se reconnaître comme un groupe de victimes. Et donc ça questionne essentiellement le statut de la subjectivité victimisée par une modernité hyper technologique. Et là, bon, c'est une thèse. Hein. C'est vraiment une thèse et une grille heuristique hein, qui cherche à mettre du sens là où d'autres mettent du non-sens. Ça ne veut pas dire que ça existe, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais à partir du moment où nous avons des sujets qui posent qu'ils ont été victimes de quelque chose qui leur est supérieur, nous devons, nous interroger sur qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? Alors que nous savons, par d'autres biais, en particulier les sciences dures, que pour l'instant, on n'a aucune preuve que cela existe. Arthur Clarke disait « Je n'ai aucun doute que les ovnis existent. En revanche, que ce soit des machines extraterrestres, je ne le pense pas. » Et j'ai à peu près la même attitude.
Merci.
Oui, vous en avez... Je crois qu'il y a quand même une psychose qui joue à ce sujet. Souvenons-nous d'Orson Welles en 1939, hein, quand il a lancé l'idée que nous étions attaqués, envahis par des extraterrestres. Bon. Mais il y a des gens qui l'ont cru. Il y a des gens qui ont paniqué, il y a même eu des suicides, il y a eu quand même, ben, il a remué l'opinion publique avec une idée comme ça. Alors je crois qu'il y a une idée de psychose qui joue aussi, c'est-à-dire que annonçons demain sérieusement à la radio, à la télévision, que nous sommes envahis par des extraterrestres, je ne sais pas à vous ce que ça vous ferait, mais moi je sais que ça me secourait quand même. Ben, je me dis qu'après tout, ces gens, après tout, viennent-ils avec de bonnes intentions ou de mauvaises, ça c'est une question qu'on peut se poser. Alors je crois que cette psychose, oui, elle existe, puisque Orson Welles l'a démontré en 1939 quand il a voulu faire cette petite plaisanterie, là, et qui a marché d'ailleurs. Alors je crois qu'il faut faire attention aux idées que nous portons à ce sujet. Bon, les extraterrestres, donc, automatiquement n'ont pas nos conceptions et n'ont pas notre éducation, ils ont eu un système qui est différent. Alors, est-ce que ce système va s'accorder avec le nôtre? Ça, c'est une question aussi que nous pouvons nous poser. Alors, je crois que être inquiet ou rassuré par une invasion, par un contact, disons, extraterrestre, Mais je pense que oui, ça mérite d'être posé, d'être réfléchi, d'être... Oui, je pense que...
Je voudrais juste intervenir brièvement sur l'histoire d'Orson Welles que vous évoquiez. Parce que j'ai enquêté un peu sur cette histoire, je suis remonté aux comptes rendus de presse originaux. En fait, il faut être clair, il n'y a jamais eu aucun suicide. Aucune personne ne s'est suicidée au moment de cette émission. On a vaguement trouvé une personne qui s'était cassé le bras en descendant les escaliers. C'est à peu près tout comme... cette histoire témoigne beaucoup plus que de la panique prétendue du public, c'est des conceptions qu'il y avait à l'époque et qu'on trouve encore aujourd'hui, on le voit vis-à-vis des ufologues, qui consistent à vouloir couper le monde en deux entre une élite rationnelle et qui pense scientifiquement, et puis le peuple, le public qui serait prêt à croire n'importe quoi. Je crois que c'est le vrai danger de ce genre de débat, c'est ça, c'est cette espèce de coupure radicale qu'on veut souvent faire entre la pensée populaire, les croyances et la pensée scientifique. Sur ce sujet, tout le monde est démuni. Personne n'a de réponse sûre. Tout le monde, enfin, un certain nombre de personnes cherchent. Et moi, il se trouve que pendant des années, mon travail, c'était de faire de l'anthropologie parmi les ufologues. Certains vont étudier les bororos ou les aborigènes australiens. D'autres étudient les scientifiques, les astronomes. Moi, j'ai étudié les gens qui s'intéressent aux ovnis. Ce que je peux dire de façon claire, c'est qu'ils ne sont pas irrationnels. Ce n'est pas des gens qui sont des bêtes curieuses. Ils sont tout à fait normaux. Et ils essaient de mettre en place des systèmes d'expertise sur ces sujets. Alors, je ne prétends pas qu'ils s'y prennent bien ou autre, mais il se trouve que personne jusqu'ici n'a été capable de le faire sur ce genre de sujet. Donc, simplement, ils prennent au sérieux cette idée que des gens pourraient avoir vu des choses qui seraient intéressantes. Alors, ils couvrent toute la gamme. Il y a ceux qui pensent que les ovnis... Il y a des ufologues qui pensent que les ovnis n'existent pas, que c'est juste un mythe. Donc, ils sont également leurs propres sociologues. Et il y en a certains qui pensent que ça correspond effectivement à une forme de pensée non humaine, et qu'on est peut-être visité par les extraterrestres. Alors après, il y a toute la gamme, il y a les enlèvements, il y a les crashs de soucoupes volantes, Roswell et tout ce qui s'ensuit. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui ne sont pas du tout des naïfs béats, mais qui essaient de coller à l'argumentaire scientifique ou à l'image qu'ils s'en font, et de mettre en place des systèmes de référence, de preuves, et des discussions à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas je crois que le débat est... On rejoint là constamment le problème des extraterrestres, c'est qu'on veut trop penser le sujet en termes de il y aurait la science d'un côté et la croyance de l'autre, et en fait c'est extrêmement difficile de s'y retrouver, on ne sait jamais de quel côté on est. Et il me semble que le problème des extraterrestres peut être approché d'une façon assez paradoxale. Quand moi je constate avec quelle difficulté les gens qui s'intéressent, que les gens de SETI et tout, sont incapables d'appréhender simplement les ufologues et leur façon différente d'appréhender le problème, je me dis qu'on n'est pas prêt de comprendre d'éventuels extraterrestres. Donc, tant qu'on n'est pas capable de, je dirais, combler les grands partages entre pensée magique et pensée scientifique sur Terre, ben, dans les étoiles, on n'est vraiment pas arrivé. Voilà.
Okay. Est-ce que là, on ne pourrait pas faire un petit rappel très, très rapide, un rappel historique, pour montrer tout simplement que si l'extraterrestre a plutôt majoritairement un visage malveillant, c'est qu'en fin de compte, bah, dès le départ, disons avec Wells, ça part très très mal. Est-ce qu'on ne pourrait pas montrer qu'au fil de l'histoire, en fin de compte, l'extraterrestre, cette figure d'altérité, comme disait Thierry Jandroc, en fin de compte, a incarné le visage de l'étranger, le visage de l'ennemi, le visage aussi du conquérant? Il ne faut pas oublier 1898, c'est aussi l'année de l'apogée du victorianisme, avec l'idée de conquête. Et puis, évidemment, la grande peur du conquérant, c'est de trouver un conquérant qui va le conquérir. Donc, d'une certaine façon, est-ce que on n'a pas projeté constamment dans l'histoire sur l'extraterrestre, en fin de compte, tout ce qui était, en fin de compte, en germe dans au sein de la propre société, disons plutôt occidentale. Hein. C'est plutôt un phénomène occidental, il faut bien le dire. Hein. Je ne sais pas, je vous pose la question.
I think maybe I could comment on that. I think at the beginning of modern science fiction, there were two views of the alien. Published simultaneously, there was Wells, The Hostile Martians, 1898, but also, I mentioned this in an earlier panel, so I'm sorry if you heard this, but Kurt Laßwitz in Germany produced a book called On Two Planets when he had benevolent Martians.
En fait, il faut faire remarquer qu'à peu près en même temps, à deux ans d'intervalle, 2 years from one from the same thing, Kurt Laßwitz was in Germany in the same year? La même année que H.G. Wells publiait La Guerre des Mondes, donc il présentait effectivement des aliens concurrents redoutables, l'écrivain allemand Kurt Laßwitz publiait un livre qui s'appelait alors le titre, traduction littérale, titre anglais, c'est Sur deux planètes, je ne sais pas s'il y a un titre français différent, qui présentait des martiens bienveillants.
And from those kind of beginnings, the two polarized views of the alien grew up. You have the pessimists who fear invasion of some kind of by a superior force, but then the optimists who believe, I suppose Carl Sagan would be the paradigm, who believe that an advanced culture must be benevolent, otherwise it wouldn't be advanced in the first place.
Donc déjà au début de la science-fiction, au début de ce thème de science-fiction, il y avait les deux vues qui se confrontaient, la vue pessimiste qui voyait en l'alien quelque chose de conquérant, de néfaste, et puis la vue optimiste qui se disait une civilisation supérieure ne peut qu'être bienveillante, et donc qui présentait les extraterrestres bienveillants.
You mentioned the SETI scientists. I would say that the radio astronomers are generally optimists who believe that there must be very powerful cultures out there benevolently sending us information for our own good in some way. So they're optimists who believe, they believe in the good pole of the spectrum. Mm.
Donc Pierre Lagrange a pas évoqué SETI, mais la plupart des radioastronomes sont des scientifiques qui sont essentiellement optimistes et qui pensent que s'il y a une civilisation extraterrestre quelque part, ils sont forcément bienveillants. Ils nous envoient des signaux radio pour nous instruire, pour nous avertir, etc. C'est forcément positif.
Yeah. But even among the SETI scientists at the moment, there is a controversy about malevolence. There are some who want to send active signals to the stars. So very powerful radio beams that will be visible much further out than the leakage of normal transmissions, and so make us much more visible across a larger section of the galaxy. Mm.
Il y a une controverse en ce moment parmi les gens qui s'occupent de SETI à propos justement de cette malévolence supposée des aliens, parce que certains sont partisans, plutôt que de se limiter à observer et puis à espérer que les aliens capteront les signaux radio que nous envoyons dans le cadre de notre vie quotidienne, d'envoyer des faisceaux beaucoup plus puissants qui soient plus faciles à capter par les extraterrestres.
Now there are some on the pessimistic side. David Brin, the science fiction writer, is one of them who very actively opposes this because he thinks it's dangerous. We don't know what's out there. He calls it shouting in the jungle. You know, you don't know what's out there and you don't want to call attention to yourself until you know. Mm.
Alors parmi les tenants de l'hypothèse pessimiste, il y a l'écrivain de science-fiction David Brin qui est très très opposé à cette idée de faisceau radio extra fort, quoi, parce qu'il pense que c'est dangereux, qu'on ne faut pas attirer l'attention sur nous, on ne sait jamais ce qui peut rôder dans la nuit.
You could ask, is this a rational fear? And I think I would say, I don't believe we can stay silent forever, but I think a contact with a higher culture could be very disturbing for us. Mm.
Donc, personnellement, il pense qu'on ne peut pas rester silencieux pour toujours, hein, mais de notre côté, il n'est pas dit que le contact avec une culture très très supérieure ne nous soit pas dommageable.
The contact between human cultures in the past has been one model, but there have usually only been differences in technology, which have been drastic enough.
L'histoire nous montre plein d'exemples où le contact entre deux cultures qui n'étaient pas arrivées au même niveau technologie a pu être désastreux.
A meeting with a truly superior being would be much more like our encounters with animals, and so it is no longer the animal story, it is our story and our ethics, and we decide what to do with the animals.
En fait, une autre comparaison possible, c'est nous sommes peut-être à l'extraterrestre très très supérieur, ce qu'un animal est à un être humain. Bon, il y a des animaux qui en souffrent.
It does seem to me that even if the aliens were benevolent, then we could well be in that position. And the ethics would be the ethics of the superior being from that point on.
Et même si ce sont des aliens bienveillants, on pourrait se retrouver dans la position d'un animal avec un alien dont l'éthique serait quand même supérieure.
That's a mankind and there's a leech. Yes.
So just to conclude that point, I would say that there are good scientific reasons, I would say, to be cautious about alien contact without being in any way paranoid.
Donc il y a de très très bonnes raisons scientifiques pour faire preuve de prudence en matière de contact avec les extraterrestres et sans pour autant sombrer dans la paranoïa.
Ok, je crois que Thierry voulait intervenir.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Baxter. Dans la mesure où nous sommes ceux qui parlons un discours qui nous dépasse, nous sommes traversés par notre culture et nous sommes traversés par les civilisations qui nous ont précédés. Donc toute notre interprétation du monde et de l'altérité passe par cette culture qui nous traverse. Quand Baxter évoque le fait que on pourrait être traité comme des animaux par des intelligences supérieures. Oui, peut-être, sauf que si vraiment ce sont des cultures extraterrestres, c'est-à-dire en dehors de l'humanité, ils n'ont certainement aucun rapport et aucune communauté d'esprit avec nous. Ils nous verront de façon radicalement différente. Et donc, ne pourront pas entrer en contact comme nous, nous entrons en contact avec les espèces inférieures ou dites inférieures. Nous avons toujours eu le problème, en particulier nous, les Occidentaux, à gérer la question de l'autre. Et le premier autre pour l'Occident qui a toujours posé problème, c'était la femme. Donc, pour nous, le premier extraterrestre, c'est la femme. Alors, tant qu'on n'a pas résolu le problème de notre relation avec notre prochain, en l'occurrence notre prochaine, on ne peut pas penser autrement à l'altérité. Alors, évidemment, maintenant, on se dit... dans l'univers, qu'est-ce qui pourrait se passer? Mais c'est en dehors totalement de notre pensée, du pensable. C'est indicible. Et évidemment, dès qu'on touche à la question de l'indicible, on touche à la question du réel. Ce qui va nous tomber sur la figure, comme on dit en termes triviaux, sur le coin de la gueule, et alors ça nous fait très peur, parce que ce que l'homme redoute le plus, c'est justement être en situation de détresse. Et c'est autour de cette peur atavique de la détresse, qui était la même que l'homme quand il était au milieu de la nature, au temps de la préhistoire, qui nous effraie et qui nous angoisse. Imaginez que des gens puissent venir avec une technologie tellement supérieure à nous, qu'ils aient pu traverser des millions d'années-lumière pour arriver jusque-là, mais ça nous mettrait à la place de fourmis. Qui serions-nous? Et ça fait très très peur. Et ça fait très peur non seulement aux individus, mais ça fait encore plus peur aux gouvernants qui n'ont pas l'imaginaire pour pouvoir gérer cette question de la différence radicale. Et là, on entre dans les questions du dogme. Comment gérer ce qui est impensable? Et ça, c'est vraiment la question de la modernité.
Okay. Alors, un mythe moderne, disait Jung en 58.
Je pense en effet qu'il faut quand même aussi se méfier des gens qui ne pensent pas comme nous. C'est-à-dire que, bon, ils arrivent avec d'autres idées, nous avons les nôtres, bon, nous avons des coutumes, des croyances, mais ces gens, après tout, ne sont pas obligés d'avoir épousé nos croyances et de les connaître, même ils ne les connaissent même pas. Alors je crois que la question de Dieu aussi est une question importante. Nous sommes déistes, bon, nous avons appris à aimer l'être suprême, bon. Mais un extraterrestre, Dieu pour lui, qu'est-ce que c'est Dieu? C'est peut-être pas la même raison, c'est peut-être pas la même conception, c'est peut-être pas du tout la croyance que nous avons. Alors je crois qu'il y a les croyances, il y a les conceptions, il y a les façons de vivre. Je crois que dire craindre ou ne pas craindre l'arrivée d'un extraterrestre, ben... moi, je reste sur une position que je crains toujours les gens qui ne pensent pas comme moi. C'est-à-dire que je parle dans les grandes lignes, la ligne du respect d'autrui, de la croyance en l'homme, en Dieu, à les conceptions dans lesquelles nous avons été élevés. Mais ces gens arrivent avec d'autres conceptions, alors est-ce qu'on doit les craindre ou est-ce qu'on doit les accepter? Voilà. Alors, vous savez quoi? Au Moyen-Âge, rappelez-vous, l'Inquisition. Ça a marché comment, l'Inquisition? C'est en imposant aux autres des idées que l'Église voulait imposer et que nous n'avions pas. Bon. Mais si ces gens-là arrivent avec des idées qu'ils veulent nous imposer, nous tomberons dans le même travers. Nous tomberons dans les mêmes situations. Alors, je crois, craindre ou ne pas craindre l'arrivée d'un extraterrestre, oui, enfin moi je crains, c'est mon opinion, attention, je crains les gens qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes règles, les mêmes croyances, et qui sont complètement différents de notre pensée, et qui peuvent, puisqu'ils ont la technique supérieure à la nôtre, puisqu'ils viennent et que nous ne sommes pas capables d'aller chez eux, donc ils sont capables de venir encore nous imposer, et peut-être aussi de nous mettre... au diapason de leur propre idée. C'est ça que je crains.
D'accord.
C'est ça que je crains.
Pierre, je te donne la parole, mais d'un seul coup, en rebondissant sur l'idée de Dieu, je me demandais si, en fin de compte, l'extraterrestre n'était pas une figure de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde sait, par exemple, que E.T., c'est en fin de compte Jésus-Christ. Hein, je veux dire, c'est facilement décodable du début jusqu'à la fin, à travers le schéma de résurrection, que E.T., qui touche la personne à la fin, qui touche le jeune héros en disant « Je serai toujours avec toi », c'est une figure christique. Bon, c'est juste une incise pour montrer qu'en fin de compte, il pourrait y avoir un déplacement, la théologique, très intéressant du côté des extraterrestres. Tu voulais peut-être intervenir là-dessus ?
Il y a plusieurs débats, je dirais. Souvent, quand on parle des ovnis ou des extraterrestres, on est sur un débat, ils sont plus évolués que nous, mais bon, en gros, on peut se comprendre et tout. Je crois que là, il faut vraiment reposer le problème que on est face à quelque chose qui est effectivement fondamentalement différent. Donc tous nos repères, on peut les jeter aux orties, on est largué. Le problème avait été bien posé en 58 par Aimé Michel, avant même les débats dans le cas du programme SETI sur le paradoxe de Fermi. C'était que Aimé Michel faisait remarquer que même en discutant sur la question des ovnis, on avait affaire à quelque chose qui, si on imaginait que c'était une pensée non humaine, était vraiment de l'ordre de quelque chose de tellement différent que nos concepts se heurtaient sur cette chose-là. Donc, on n'est plus juste dans le débat, on est face à des extraterrestres plus ou moins évolués, quelques centaines d'années, ou trucs comme ça, ou quelques milliers d'années. On est vraiment face à quelque chose qui est totalement différent de nous. Alors après, il y a deux options. Soit on laisse tomber, c'est-à-dire c'est de la métaphysique ou même quasiment de la théologie, on n'en sortira jamais et c'est même pas la peine de s'accrocher au débat. Soit on pense qu'on peut, malgré tout, essayer d'élaborer des outils pour comprendre. Bon, moi, venant de l'anthropologie, je crois pouvoir mesurer les difficultés extraordinaires qui consistent effectivement à nous contacter entre nous, à comprendre nos propres différences. Depuis les femmes jusqu'aux autres cultures, on se rend compte à quel point ça pose de vraies difficultés. Mais on a quand même su élaborer des outils. On commence aujourd'hui à comprendre d'autres espèces animales, les primates et tout, et avoir quelques outils dans ce sens. Alors évidemment, entre se comprendre sur Terre et imaginer une forme d'intelligence extraterrestre, c'est un autre problème, mais on peut imaginer qu'on pourra malgré tout l'approcher. Le problème des débats actuels, c'est que ce soit SETI ou même l'ufologie, c'est qu'ils essaient de partir de nos modèles. SETI imagine des extraterrestres qui font de la radioastronomie. Et donc ils imaginent des extraterrestres ad hoc. Alors évidemment, dans le cadre d'une recherche scientifique, on est obligé de faire de telles hypothèses pour pouvoir avoir quelque chose à saisir. Parce que les gens qui font de la recherche SETI se rendent compte que s'ils abandonnent le projet de recherche radioastronomique, bah, ils n'ont tout simplement plus rien à chercher et ça devient une discussion philosophique parmi d'autres. Or, il y a ce besoin de l'ancrer. Donc, aujourd'hui, le débat avance un petit peu parce qu'on sait qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles. Donc, malgré tout, l'optimisme progresse. On n'a pas encore la preuve qu'il y a de la vie ailleurs. Ce sera peut-être un débat autrement plus difficile parce que si on a découvert des planètes extrasolaires, identifier la vie, c'est extrêmement difficile. Je voudrais juste rappeler un débat. En 76, on a envoyé des sondes, les premières sondes sur Mars. À l'époque, il y avait trois expériences qui étaient embarquées, qui devaient détecter la vie. Or, il faut savoir que depuis 76, un des ingénieurs qui a travaillé sur une des expériences qui a été embarquée à bord de Viking, donc qui n'est pas le premier crétin venu, est en désaccord profond avec les autres scientifiques et lui prétend avoir détecté de la vie avec son expérience. Donc c'est un débat qui n'est pas du tout connu du grand public. Un des auteurs des expériences de Viking pense que les autres se trompent et que lui a détecté de la vie. C'est un débat qui est larvé, qui, la plupart du temps il n'est même pas évoqué, mais je crois que c'est quand même important de le citer pour mentionner à quel point c'est extrêmement complexe. Donc, et là on parle de vie microbienne, bactérienne, enfin des formes de vie extrêmement primitives. Rien ne dit qu'ailleurs ça ait pris, même ces formes de vie primitives soient exactement comme ce qu'on a trouvé sur Terre. Donc, plus le problème grandit, plus il devient insaisissable. Mais on est quand même des optimistes et on se dit qu'on a peut-être des outils ou qu'on les forgera qui nous permettront malgré tout d'appréhender cette question.
Oui, alors, il y a l'aspect toujours scientifique, mais il y a aussi l'aspect de la fiction qui nous intéresse tous ici. Je suis frappé par le quatrième volet, très décevant d'ailleurs, des aventures d'Indiana Jones. Et c'est assez extraordinaire de voir que Spielberg, dans ce quatrième volet, redécouvre
la théorie que ma génération a, disons, a connue dans les années 60, celle de ce qu'on a appelé l'archéologie spatiale ou des anciens astronautes, c'est-à-dire théorie selon laquelle, vous vous souvenez, Van Däniken, Charroux, etc., théorie selon laquelle, en fin de compte, les extraterrestres auraient fondé les grandes civilisations terrestres et fondé tous les monuments qui posent encore des problèmes, des mystères, comme les pyramides, la terrasse de Baalbek, Nazca, etc., etc. C'est assez étonnant de voir un Américain tout de même avec, qui a tellement accouché de films extraordinaires de science-fiction, redécouvrir des vieilles lunes comme les anciens astronautes. Ma question, parce que je vois l'heure qui arrive, c'est est-ce qu'en fin de compte nous n'arrivons pas dans la fiction une sorte de cul-de-sac vis-à-vis du problème extraterrestre? Je dis bien dans la fiction. Juste, d'ailleurs, très très vite, parce que j'aimerais peut-être s'il y a une question ou deux, mais je m'aperçois qu'il nous reste 4 minutes.
Donc, je veux dire que si nous allons à Tiwanaku, nous avons sur la porte du
la
soleil,
porte du soleil oui.
La porte à l'échelle, ah, oui. Nous avons des graphiques, nous avons des inscriptions qui nous montrent bien que les extraterrestres sont déjà venus.
Oh là là, oui.
Oui. Bon, alors donc,
bah,
nous avons,
des tenants
oui,
de cette théorie,
donc nous sommes
comme
certains à l'heure actuelle d'avoir été visités à une époque lointaine, d'accord, ouais. Mais des traces sont encore visibles. Ouais. Vous avez les dessins géants de Nazca.
Oui.
Ces dessins géants de Nazca
très vite, hein.
Ne sont visibles que du haut du ciel. Si vous vous promenez, moi je suis allé à Nazca, on se promène sur le sol, vous voyez des traits comme ça, mais vous ne savez pas ce que c'est. Il faut monter à une certaine hauteur pour voir que vous avez une araignée, vous avez un condor, vous avez un singe aussi. Donc ce n'est que vu du haut du ciel que ces choses-là sont compréhensibles. Donc, vu du haut du ciel, cela fait appel automatiquement à des gens qui avaient les moyens de s'élever et de voir de très haut ce que, au sol, on ne comprend pas.
D'accord. Bon, ben ça, c'est plutôt positif comme image des extraterrestres. C'est eux qui ont créé notre civilisation.
Moi, je voudrais juste rebondir parce que, autant bon, je serais mitigé sur l'idée des extraterrestres qui sont venus, surtout à partir des preuves qu'on nous présente, autant je trouve, moi, extrêmement intéressant la façon dont Spielberg a utilisé ce thème. Et je pense que par rapport à la culture américaine, ce n'est pas en rupture avec les films précédents. Pas autant qu'on le pense. Parce que, justement, ce qui est intéressant avec, que ce soit les OVNI ou même le programme SETI, c'est qu'on assiste effectivement à la fois à un débat scientifique et à la constitution d'une mythologie, c'est-à-dire d'un système d'interprétation qui nous permet de réécrire l'histoire et même d'intégrer toutes les autres cultures qui nous ont précédés. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant. Et en plus, ce qui est également intéressant par rapport à cette idée extraterrestre dans le passé, c'est qu'il n'y a pas juste Charroux, Powels et Berger ou d'autres auteurs comme ça, ou Van Däniken, bien sûr, qui l'ont posé, mais des chercheurs tout à fait sérieux comme Carl Sagan, que citait Stephen Baxter, a également émis l'hypothèse que dans les années 60, dans la Bible de SETI, le livre qui s'appelle Intelligent Life in the Universe, qui a été écrit avec Shklovsky, son collègue russe, qu'il fallait peut-être se pencher sur les vieux récits mythologiques ou de l'histoire des Dogons ou des dieux Oannès ou autres à Babylone, en essayant de se dire est-ce que ça ne pourrait pas représenter d'anciens contacts. Alors, par la suite, il a abandonné l'idée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas propre à une certaine culture populaire. C'est une question qui appartient à la culture scientifique. Okay. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est extrêmement intéressant de voir comment toutes ces idées-là se sont développées au cours du XXe siècle.
Ok. Merci.
Yes, picking up on what you were saying, I think I believe that most UFO sightings are surely to do with human psychology rather than anything external.
Il pense que la plupart des observations d'OVNI s'expliquent par des causes tenant à la psychologie humaine plutôt que par des véritables phénomènes.
But if we did see an alien artifact, let's say, it would be a new category of object in the world.
Mais si nous devions voir véritablement un artefact alien, ça serait une catégorie totalement nouvelle d'objets dans le monde.
Our world is natural objects and objects made by humans, so this would be something entirely different and entirely new.
Dans notre monde, il n'y a que deux catégories d'objets, les objets naturels, les objets fabriqués par l'humain. Donc ça serait quelque chose de totalement nouveau.
Who knows, we may not even be able to see it in a sense. It would be so out of our cultural and evolutionary conditioning.
Et si ça se trouve, nous serions totalement incapables de le voir, ce serait tellement étranger à notre compréhension du monde.
Mm-hmm. So it could be like UFO sightings where the witnesses don't know what they saw. It could be like strange visions in the Bible when the witnesses didn't understand what they saw. Mm-hmm. And perhaps the movie which is most emblematic of this kind of vision is 2001 when the astronaut didn't understand what he saw. Yeah.
Donc ça pourrait être comme dans dans certains récits bibliques, dans certains témoignages de gens qui disent avoir vu des ovnis, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont vu. Et à ce titre-là, dans la fiction, le film le plus emblématique de cette idée, c'est 2001, oui, où l'astronaute ne comprend et le spectateur ne comprend pas ce qu'il voit.
Ouais. Mm-hmm. Okay. Malheureusement, Thierry, mais je vois l'heure qui file. Peut-être symboliquement une question ou deux très très brèves avant de laisser la place à la prochaine table ronde. Est-ce que tu veux bien passer ton micro? Merci beaucoup.
Merci. Honnêtement, en arrivant à cette conférence, j'étais très sceptique vis-à-vis du sujet qui allait être abordé, puisque les extraterrestres sont-ils bons ou méchants, ça relève assez d'opinions et de croyances. Donc dans le coup, il y a deux solutions qui se posent, étant donné qu'aujourd'hui le problème extraterrestre est extrêmement blockouté. À une conférence comme celle-ci, dans le cadre de la science-fiction, on prend peut-être deux pistes, soit de ne pas vraiment aborder le thème, ou soit de mettre carte sur table vis-à-vis d'absolument tout ce qui a été trouvé en termes de témoignages, en termes d'expériences extraterrestres. Et on engage un réel débat vis-à-vis de notre place dans le monde, de la création, de tout ce type de problématiques, parce que avec cette conférence, moi, ce que je vois, en conclusion, c'est qu'on n'a pas réellement avancé sur le débat. Soit, effectivement, on a une compréhension trop limitée, on ne comprend rien.
On essaye. On fera mieux la prochaine fois.
Donc, peut-être trouver la problématique. Mais en même temps, c'est très tabou dans notre société de parler de ça.
Non, je ne pense pas.
Vu les preuves qui sont trouvées, auxquelles on accorde plus ou moins de crédulité, c'est...
Okay. Je vous invite à la deuxième table ronde sur les extraterrestres qui aura lieu demain.
D'accord.
On essaiera de faire encore mieux. Merci à tous. Et merci aux intervenants, bien sûr. You're welcome. Okay.